seront aussi nombreux et aussi fidèles. La prochaine conférence, elle aura lieu le 15 février, et non pas le quatrième mercredi du mois. Elle aura pour thème « Comment se monte un spectacle de cirque contemporain ?» et elle sera donnée par les responsables du Barreau d'Ayvelles de la Velanée de Comminges. La date est fonction de leur disponibilité, donc voilà, c'est exceptionnel, le 15 février, ne l'oubliez pas. De toute façon, vous avez les annonces, le programme des conférences sur le site de la Pub en Vol, pubenvol.fr, et vous avez aussi la possibilité de réécouter le texte des conférences passées sur ce même site. Voilà, nous allons accueillir la conférence ce soir. Si vous voulez exprimer vos vœux de conférences, de thèmes de conférences pour l'année prochaine, vous pouvez le faire dès maintenant, parce que nous commençons déjà à travailler sur le programme de l'année prochaine. Donc si vous avez des thèmes qui vous intéressent, et si possible le conférencier qui va avec, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail sur contact@pupenvol.fr et on prendra en compte vos souhaits. Voilà, alors ce soir j'accueille Philippe Guy qui va nous parler de la France des compagnons. Alors Philippe, il est compagnon ébéniste. Il est tombé dans le métier quand il était petit, comme on dit, parce que son père était déjà menuisier, si je comprends bien. Philippe a fait ses études au lycée d'Arevel, oui, au lycée de l'ameublement, et des études d'ébénisterie, et il est ensuite parti faire son tour de France des compagnons. Tarbes, Tours, Nantes, Grenoble, Avignon, je crois que j'en oublie quelques-unes. C'est peut-être pas dans l'ordre non plus, mais ça n'a pas d'importance. Pendant tout son périple, Philippe a gravi un peu tous les échelons de l'institution compagnonique. Et ça pendant 7 ans à peu près. Et quand il s'est installé, pour devenir compagnon sédentaire, il a quand même continué sa mission en assurant la formation des jeunes, voilà, des apprentis, et aussi le perfectionnement des compagnons qui sont en itinérance dans leur tour de France. Voilà, il va nous dire l'histoire et tous les détails sur le compagnonnage qui, pour la plupart d'entre nous, ont relevé encore une certaine part de mystère. Alors le mystère sera levé ce soir avec Philippe. Bonne soirée.
Bonsoir déjà, je vous remercie donc tous pour votre présence. Donc je suis volontairement resté discret sur la société à laquelle j'appartiens, car vous allez voir que l'histoire du compagnonnage est un peu compliquée et qu'il y a plusieurs mouvements compagnoniques. Et comme je tiens à être le plus neutre possible ce soir, je vais parler du compagnonnage en général. Et si vous me demandez à quelle société j'appartiens lors des questions, c'est que j'aurais à peu près bien fait mon travail, puisque j'aurais été plutôt impartial dans mon texte. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai indiqué aussi la France des compagnons, parce qu'il y a des compagnons, il y a plusieurs donc, compagnonnages. Et la France, c'est puisque le compagnonnage existe essentiellement en France. Il y a quelques sociétés compagnoniques en Allemagne, mais c'est le seul pays, à part la France, où il y a donc... du compagnonnage. Alors pour commencer, on va partir, c'est déjà une définition que vous pouvez trouver un peu partout, tous les livres, même sur le dictionnaire. Donc le compagnonnage désigne donc un mouvement mobilier séculaire dont les membres effectuent un tour de France professionnel afin de parfaire leurs connaissances dans l'art et la pratique de leur métier, mais également dans ce qu'elle représente de formateur pour l'homme. Alors je me suis permis donc de souligner trois éléments donc, qui sont les éléments fondamentaux du compagnonnage qui vont nous permettre aussi de ne pas le confondre donc, avec des mouvements donc, professionnels, voire des sociétés philosophiques, puisque vous savez que le compagnonnage est souvent assimilé donc, à des sociétés donc, qui se veulent fraternelles aussi. Alors tout d'abord, donc, par mouvement ouvrier, il faut entendre donc, des hommes qui se regroupent et œuvrent donc, autour d'un métier que l'on qualifie de manuel. Alors j'aime pas trop ce terme, puisque pour travailler avec ses nains, il faut aussi avoir un peu de tête. Et de nos jours, donc, c'est ouvert à beaucoup de métiers, mais il faut savoir qu'à l'origine, c'était essentiellement donc, des métiers de la construction, donc des métiers de bâtisseurs. Et ce n'est donc au cours du Moyen-Âge, avec l'apparition donc, des corporations, que d'autres métiers sont venus se rajouter à la filiation compagnonique, et donc il y a encore des nouveaux métiers qui se greffent au compagnonnage encore de nos jours. Le deuxième principe du compagnonnage, c'est le voyage, que l'on appelle traditionnellement donc, le Tour de France. Mais il faut savoir que ça n'a jamais réellement été le Tour de France. Les compagnons ont voyagé dans toute l'Europe, voire le monde entier, et même encore actuellement, le Tour de France ne se limite pas qu'aux frontières de la France. Alors les compagnons vont comme ça de ville en ville. Donc où les compagnons possèdent ce qu'on appelle un siège, c'est-à-dire un lieu d'accueil où l'itinérant va trouver donc, le gîte et le couvert, mais il va trouver donc, un réseau de compagnons pour avoir du travail et pour continuer à se former professionnellement, tout cela donc, avec des règles identiques dans tous les sièges. Donc ces règles de vie concernent le troisième principe, puisqu'elles gèrent donc, la vie dans les sièges, où tout est fait donc, pour vivre en bonne intelligence. Elles sont basées, ce sont des règles simples, qui sont basées sur le respect, la tolérance, la politesse, ce qu'on appelle donc le vivre ensemble. Évidemment, ces règles débordent sur la vie professionnelle, puisqu'elles permettent aussi d'être ouvert à la transmission du métier, comme aux coutumes et les particularités donc, de chaque région traversée. Et le compagnon donc, va ainsi acquérir une somme de connaissances donc, professionnelles, mais aussi culturelles, qu'il va à son tour donc, transmettre aux jeunes qui partent eux aussi sur leur tour de France. Alors, quelles que soient les époques, ces règles de vie se sont toujours appuyées sur une grande solidarité, puisque nous savons que déjà au Moyen-Âge, lorsque un compagnon donc, se trouvait sans travail, donc soit par accident, enfin, maladie enfin, ou autre, il bénéficiait donc, de l'entraide de tous les autres compagnons. Et de nos jours, bon, on sait qu'il existe des assurances, etc., mais il faut noter que les compagnons donc, ont été un peu un précurseur dans ce domaine, puisqu'ils avaient ce qu'on appelle un fonds de solidarité, et qui permettait donc de pallier au manque d'argent quand un compagnon se retrouvait sans travail. Donc c'est cette solidarité, cette entraide qui fait dire aux compagnons qu'ils construisent sa vie en construisant pour les autres, et c'est cet état d'esprit donc, que l'on considère comme étant la fraternité compagnonique. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve cela donc, dans l'étymologie latine du mot compagnon. Donc je ne sais pas s'il y a des latinistes, mais qui est compagnum, compagnonem, voilà, qui vient de cum, donc qui est avec, et panis, pain, donc qui se traduit donc par celui qui partage le pain avec un autre. Voilà. Et les premiers écrits du Moyen-Âge, parlant donc des compagnons, vont déjà dans ce sens, puisqu'ils parlent de confrérie professionnelle ayant un but d'entraide. Donc ces trois points, comme je viens de le dire, sont les mêmes donc, pour tous les compagnonnages, puisque les compagnonnages sont divisés, mais ces trois points sont identiques pour toutes les sortes de compagnonnages qui existent. Et comme c'est écrit, donc, tout cela se transmet par le biais d'une tradition séculaire, souvent donc, qualifiée de mystérieuse. Et donc c'est pour tenter de percer quelque peu donc, cette tradition que nous allons maintenant nous intéresser à son histoire et à son origine. Mais là aussi, donc, il convient donc, de préciser quelques points, car l'histoire du compagnonnage est un complexe mélange entre les vérités historiques et les légendes compagnoniques. Ceci a pour effet donc, de rendre l'histoire donc, du compagnonnage difficile, d'autant plus qu'il y a quelques points donc, non négligeables, car le compagnonnage donc, fut pourchassé à certaines époques de son existence, donc ce sont les guerres religieuses, les luttes ouvrières, mais aussi les différents remous politiques qui jalonnent la vie de toute nation. Donc cela obligea le compagnonnage à prendre une forme discrète, pour ne pas dire secrète, à certaines époques, et de ce fait, donc, il y a peu de pièces écrites. Et comme le compagnonnage, je viens de le dire, se veut fraternel, il ne faut donc pas mettre en péril et donc l'un de ses frères. Pour cela, point de documents ou d'archives. Les premières archives compagnoniques connues à ce jour remontent donc au XVIIe siècle. Avant cette époque, les directives étaient données uniquement de bouche à oreille et les seuls écrits qui pouvaient exister étaient brûlés donc une fois l'an pour la fête patronale de chaque société. Et certaines sociétés même donc mêlaient les cendres au vin qui, une fois mélangées, donc étaient bues par tous les compagnons. Le deuxième élément donc découle du premier, car les récits transmis de bouche à oreille subissent donc, et à travers le temps, les déformations dues à cette pratique. Donc cela ne félicite pas donc les tâches des historiens, qui eux se cantonnent donc à l'aspect purement objectif. Et donc même après le XVIIe siècle, où le compagnonnage a commencé donc à laisser des archives, cette pratique orale a continué d'exister, et il est donc difficile donc, pour le pur historien de se faire une idée précise donc, de l'esprit pratiqué dans le compagnonnage. Alors il va de soi que fixer dans ces conditions une date précise de la naissance du compagnonnage est une chose difficile. Donc d'après les documents et archives connus à ce jour, n'appartenant donc pas au compagnonnage, la communauté donc, des historiens s'accorde pour faire remonter l'origine des sociétés compagnoniques au XIIIe siècle, c'est-à-dire l'époque de la construction des cathédrales, mais aussi donc, l'épopée des croisades, ainsi que la mise en place des corporations. La question est de savoir si le compagnonnage est beaucoup plus ancien que cela. Alors si on se place au niveau purement historique, donc pour le moment rien ne le prouve, mais rien non plus ne démontre le contraire. Et parce qu'en fait, l'étude comparée dans des religions et des traditions, donc dans des différents périodes du monde entier, montre que des ouvriers se sont transmis des connaissances plus ou moins secrètes, de génération en génération, et ce depuis la plus haute antiquité, puisqu'on en trouve des traces écrites donc, dans l'Égypte ancienne, donc, des pyramides, mais aussi en Grèce, la Grèce antique et romaine. Mais était-ce déjà le compagnonnage, donc on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas l'affirmer. Donc c'est là que les légendes font leur apparition. Et donc, nous allons voir la principale d'entre elles, qui fait remonter donc, la naissance du compagnonnage, donc lors de la construction du temple donc, de Jérusalem, entreprise par le roi Salomon, donc environ 1000 ans avant notre ère. Donc la principale construction de cette construction se trouve dans la Bible, pour ceux que ça intéresse, dans le livre des rois. Donc où il est fait mention donc avec des constructions de Montmorial, l'actuel monde du Temple, qui domine aujourd'hui Jérusalem. Salomon, donc avec le concours de son ancien allié, l'allié de son père, donc Hiram de Tyr. Donc, œuvrèrent à sa bonne réalisation. Alors, Hiram mit à sa disposition les matériaux les plus précieux de son pays, et pour atteindre son objectif, Salomon fit venir des dizaines de milliers d'ouvriers en provenance des divers pays du bassin méditerranéen, donc 70 000 manœuvres, 90 000 tailleurs de pierre, 3 300 indépendants, etc., etc. Donc, toute cette description-là, vous l'avez dans la Bible. Et pour le moment, il n'y a rien d'inventé. Mais c'est autour donc, de ces éléments que va se construire la légende compagnonique, car face à cette multitude de travailleurs, Salomon, donc aidé de son architecte Hiram, aurait instauré donc des signes et des mots de reconnaissance distinctifs afin de payer les ouvriers selon leurs talents et leurs mérites respectifs. Parce que ce système donc avait pour avantage surtout de mettre à l'écart les curieux ou les oisifs qui profitaient donc de la confusion de cette immense foule pour toucher un salaire pour un travail qu'ils n'avaient pas produit. C'est ainsi que les trois états d'ouvriers, donc d'apprentis, de compagnons et de maîtres, vont être mis en place avec les cérémonies d'introduction, marquant le changement d'état, et évidemment l'augmentation de salaire, etc., qui s'en suivait. Donc, outre les mots de reconnaissance propres à chaque état, un ruban donc, de couleurs distinctives leur était donné, qu'ils mettaient autour de leur tête et qui permettait de les reconnaître sur les chantiers. Donc tel est le point de départ donc, de la légende du compagnonnage qui attribue donc à Salomon sa naissance et son organisation. À côté de Salomon, on trouve deux autres fondateurs, donc, qui sont donc, Maître Jacques, donc, qui lui était un architecte au service de Paris du roi Salomon, qui est au départ donc, un tailleur de pierre, venu d'Occident. Il fut remarqué donc, par Hiram pour ses talents de sculpteur et fut élevé donc, au rang d'architecte sur le chantier de Salomon. Donc la construction achevée, il se retira donc en Provence, dans le massif de la Sainte-Baume, Saint-Maximin exactement, donc est devenu depuis un lieu de pèlerinage pour les compagnons donc, qui se réclament de cette descendance. À côté donc de Maître Jacques, il y a un troisième fondateur, qui est le père Soubise, donc lui charpentier de son état, toujours pareil sur la construction du temple. Pareil, fut élevé au rang d'architecte par Hiram et se retrouva donc auprès de Jacques, avec qui, à la fin donc, du chantier, venèrent en France donc, pour propager en Occident l'ordre des compagnons qui seraient donc nés en Orient. Alors, il va de soi que c'est un simple survol de cette légende qui est beaucoup plus longue et complète que ça, et qui contient donc de multiples détails alors, et qui présente surtout un intérêt donc, pour ceux qui s'intéressent évidemment à la symbolique. Mais au-delà de ça, cette légende permet surtout de revendiquer une ancienneté donc, que lui refusent les historiens. Et il faut donc attendre pour les historiens donc, le début du Moyen-Âge pour trouver des preuves tangibles qui vont mettre en relief toute l'identité compagnonique. Et nous allons voir là aussi que cette légende va prendre aussi une autre dimension quand nous allons arriver donc, au Moyen-Âge. Alors, les photos que je vous fais voir, là, sont les représentations que l'on trouve dans tous les sièges compagnoniques de n'importe quelle société à laquelle on appartient. Ce sont les représentants, donc les trois fondateurs du compagnonnage. Alors, au Moyen-Âge, l'Occident donc, est en plein essor, surtout donc, par les chantiers occasionnés par la construction des cathédrales. Mais aucune date ou lieu précis ne permet de nous renseigner sur l'émergence des sociétés compagnoniques. Néanmoins, donc, chercheurs et historiens s'accordent sur le fait que les premiers métiers acceptés en compagnonnage le furent donc, en ce début du Moyen-Âge, et il semblerait que ce soit donc, les tailleurs de pierre, les charpentiers et les ferronniers qui furent les premiers. Alors cela paraît logique puisque ces corps de métier couvrent les trois matériaux de base des constructions de l'époque, c'est-à-dire la pierre, le bois et le fer. Et sur un plan symbolique, on peut déjà noter les rapports donc, avec les fondateurs, puisqu'on a vu que Soubise était charpentier, donc travaillait le bois, Maître Jacques, donc tailleur de pierre, travaillait la pierre, et on sait donc par des écrits que le roi Salomon s'intéressait donc à l'art des métaux, puisqu'il a fait construire des colonnes amérindiennes, enfin, toute la construction du temple, il y avait beaucoup de métaux. Nous savons aussi qu'à cette époque, donc, du début du Moyen-Âge, que les compagnons ont côtoyé les ordres monastiques et chevaleresques de l'époque, puisqu'ils les ont aidés pour différentes constructions. Et nous retrouvons là aussi la symbolique avec les trois fondateurs, donc biblique, donc avec le roi Salomon, puisqu'ils avaient droit à des franchises pour pouvoir voyager, enfin exercer leur métier dans la construction. Chevaleresque, puisque c'est sous la protection des ordres de chevalerie de l'époque qui vont les suivre sur les croisades, donc pour construire tout ce qui était pont, relais, enfin, etc., donc représenté par Maître Jacques, et monastique, puisqu'en relation étroite, donc, surtout donc, avec les cisterciens de l'époque, qui vont le ramener, donc, ce qu'on appelle chez les compagnons, la science du trait. Je vous en reparlerai un peu plus tard, donc c'est les façons de tracer, enfin, de faire ce qu'on appelle des épures. Donc on voit là que la légende compagnonique prend ici toute sa dimension, puisqu'on y trouve les trois références traditionnelles de l'Occident, donc biblique, chevaleresque et monastique, et cela va inciter les compagnons à adopter une symbolique chrétienne pour les cérémonies et rituels qu'ils pratiquent, et le devoir unique, puisque enfin, le mot devoir c'est en fait la première dénomination du compagnonnage, donc, auquel donc, ils appartiennent tous à cette époque, s'appelle le saint devoir de Dieu. Donc ça c'est la première dénomination du compagnonnage, enfin connue du compagnonnage. Et sous le saint devoir de Dieu que sont définies les premières règles des compagnons, les cérémonies donc, pour recevoir les nouveaux membres, et le port des couleurs, comme on disait, qui se mettaient à l'époque autour de leur tête. Ils vont en profiter aussi pour instituer des signes et des mots particuliers pour se faire reconnaître donc en qualité de membre et de grade lorsqu'ils se déplacent sur les chantiers, donc que ce soit ici en France donc pour des châteaux, abbayes, cathédrales, mais aussi donc quand ils vont partir et jalonner donc les routes de l'Orient pour accompagner entre autres les ordres des chevaliers qui allaient jusqu'à Jérusalem. Alors donc, ce qu'on est sûr, c'est qu'en ce début de Moyen-Âge, le compagnonnage n'est plus une supposition, c'est bien une réalité. Et elle est donc le résultat combiné donc, de tous ces travaux, de tous ces chantiers donc, que l'après l'an 1000 demande. Et ce sont donc dans les archives donc, de Strasbourg que nous trouvons à ce jour la plus ancienne référence au compagnon, donc elle date de 1276. Alors je précise quand même que Strasbourg était allemande à cette époque, où l'empereur donc Rodolphe Ier octroie des franchises aux tailleurs de pierre donc pour la construction de la cathédrale de Strasbourg, et il leur donne donc une salle attenante qui servait aussi bien d'atelier que d'endroit pour se loger, donc pour loger les ouvriers itinérants, et qui prendra donc le nom de loge. Mais on sait donc que cet endroit recevait donc des ouvriers itinérants depuis 1015. Mais on n'a pas de traces vraiment écrites, savoir si c'était déjà vraiment des compagnons. Le problème, c'est que de voyager librement, comme ils le faisaient, et puis sous la protection des ordres chevaleresques et monastiques, ça va créer donc des gênes chez certains donc, patrons, qu'on appelait des maîtres, qui voient des ouvriers arriver, repartir, enfin, et voilà. Et donc sous Louis IX, donc, qui est plus connu sous le nom de Saint-Louis, donc il s'inquiète un peu de toutes ces turbulences qui se font dans les métiers donc, de la construction, va ordonner donc, à Étienne Boileau, donc en 1268, de rassembler donc, les statues de ces corps qu'il appelle sauvages. Et il va leur interdire en même temps donc, de quitter, leur interdire de voyager et de quitter leur patron. Voilà. Donc, parce qu'il leur reproche, oui, voilà, en fait, que le voyage donc, sous-entend donc, un perfectionnement de leurs connaissances, de s'informer ailleurs sur les salaires à pratiquer, sur les jours et les heures à travailler, voire de s'unir pour se défendre ou pour organiser le marché du travail. Voilà donc en 1268 déjà ce qu'on leur reproche. Donc évidemment, avec cette interdiction, ce sont les archives de police qui vont surtout parler donc, des compagnons, puisqu'ils vont braver donc, évidemment tous ces interdits. Donc la plus ancienne date de 1360, donc là, en France, la France de l'époque, à Rouen et principalement à Dijon, qui font allusion donc, à ces ouvriers passants. Et donc la plus ancienne donc, où il est écrit le mot compagnon, donc, date de 1420, où il est dit que plusieurs compagnons ouvriers du dit métier de plusieurs langues et nations allaient et venaient en ville œuvrer pour apprendre, connaître et savoir les uns des autres. Voilà, donc c'est à ce jour la plus ancienne citation où le mot compagnon est employé. Alors, elle concerne donc des cordonniers. Et donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'entre 1270 donc, et 1420, donc il y a en gros 150 ans, où il n'y avait au début que des métiers de la construction, on retrouve donc là entre autres des cordonniers, mais il y a plein d'autres métiers qui s'étaient déjà rajoutés au compagnonnage. Puisqu'on y trouve, donc, je l'ai marqué, des tonneliers, des orfèvres, des tisserands, des drapiers, des chapeliers, des bourreliers. Voilà. Tout ce qui voyait dans le compagnonnage le perfectionnement, la solidarité et une certaine liberté pour voyager tout en pratiquant son métier. Alors il était évident que sous la tutelle des compagnons, l'ouvrier pouvait espérer gravir les échelons dans une société très fermée, où il était impossible de changer de statut social, et malgré l'intégration de nombreux métiers dans le giron du compagnonnage, il se veut encore à cette époque-là toujours uni. Et il est toujours sous le terme donc du saint devoir de Dieu. On ne connaît pas pour le moment d'autres. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette gravure qui elle, date de 1480. C'est la plus ancienne iconographie donc, concernant les compagnons. Et elle est intitulée donc, le siège donc, de l'île de Rhodes. Donc on y voit donc, cette pierre d'Aubusson, donc en noir, qui tient. Donc un bâton, qui est le grand maître donc, des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Voilà, donc en termes compagnonique, donc on appelle ça une entrée en règle, c'est-à-dire que donc le grand maître il pose donc son bâton sur l'épaule. Donc on voit donc à côté un autre qui avance, qui s'agenouille, qui a une cognée, on appelle ça une cognée, donc lui c'est un charpentier. Et on voit un troisième qui s'avance avec un pic à côté aussi, et lui donc c'est un tailleur de pierre. Donc on voit qu'ils ont les rubans autour des cheveux, donc c'est ce qu'on appelle les couleurs en fait, qui les différencient. Voilà. Et on peut noter donc au pied aussi donc les outils symboliques. Maillet, avec guerre, compas, ciseaux, etc. Voilà. Ça, c'est la plus ancienne iconographie qu'on a à ce jour sur les compagnons. Alors là, on est encore à la fin du Moyen-Âge. La construction des cathédrales est sur le point donc, de s'achever. Et l'une de ces constructions va être à l'origine de la première scission dans le compagnonnage, donc on appelle ça la séparation des rites. Et là aussi, donc, c'est un mélange de légende et de réalité, puisqu'on sait qu'il y a eu des problèmes à cette époque-là, mais c'est légèrement plus tard, puisque la légende la situe à 1401, mais ça serait plutôt vers la fin des années 1400. Donc il y avait donc deux maîtres d'œuvre, qui étaient Jacques Moller et Soubise de Longjambe, donc on retrouve les deux fondateurs qu'on en a vu tout à l'heure, mais avec des noms un peu différents, qui ont dû faire face à une grève qui aurait dégénéré à une terrible bataille. Et donc cette légende donc, met en évidence la séparation historique entre les compagnons, car jusque-là, donc, le compagnonnage qui était rassemblé, je l'ai dit, sur un seul unique devoir, donc le Saint-Devoir de Dieu. Donc ce clivage va se créer au sein du compagnonnage, car certains compagnons ne supportent plus donc la tutelle spirituelle de l'Église. On a vu que les premières cérémonies ou autres étaient sous l'impact de l'Église. Et donc certains compagnons vont se séparer. Alors d'une manière générale, les compagnons qui vont se réclamer de Jacques et de Soubise vont rester fidèles aux règles du devoir, enfin du saint devoir de Dieu. Et ceux se réclamant plutôt de Salomon vont devenir non du devoir. Donc par opposition à ceux qui se voulaient du devoir. Donc cette scission des rites, ajoutée donc à l'apparition de nouveaux métiers, va donc multiplier les sociétés compagnoniques, mais aussi donc les condamnations par les différents rois qui vont se succéder. Et ceci donc va donner naissance à plusieurs sentences à l'encontre des compagnons. Et pour juste vous en donner une petite idée, je ne vais pas vous alourdir la soirée avec ça, mais... Donc vous avez une sentence du Châtelet, donc là en 1500, qui interdit donc à tout compagnon de ne faire aucune assemblée, compagnie, conventicule, confrérie, dîner, souper, ni banquet pour traiter de leurs affaires sous peine de prison. Voilà. Un peu plus tard, en 1539, défense à tout compagnon ou ouvrier de s'assembler encore sous prétexte de confrérie ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit, de prendre intelligence les uns avec les autres du fait de leur métier et de cavaler entre eux, pour se placer les uns les autres chez les maîtres ou pour en sortir, ni d'empêcher de quelque manière que ce soit les dix maîtres à choisir eux-mêmes leur ouvrier, soit français, soit étranger. Donc vous voyez que déjà le compagnonnage est bien vu. En 1540, un procès verbal fait pour la première fois mention de la mère. Vous savez que dans le compagnonnage, il y a une mère, donc, et deux compagnons allaient écouter chez une femme nommée la mère, et ils expliquent aussi que pendant 4 ans, ils avaient travaillé donc dans les villes de Saumur, Angers, Nantes, Fontenay, Bordeaux, Poitiers, Nevers, Courbet, etc. Donc tout cela donc explique surtout que le compagnonnage est vraiment très structuré, implanté partout en France, et qui règle un petit peu la loi du travail, surtout dans la construction et les métiers manuels. Et donc la dernière, donc en 1571, un arrêté, donc là c'est irrévocable, condamne toute manière de confrérie, de serment, de cotisation, donc de capitaine, alors ce sont les responsables de chaque société, enfin voilà, les bannières, les lieux de réunion, les banquets, les fêtes, les bâtons, les couleurs, enfin voilà, et là ils sont interdits de tout. Hein. Alors le paradoxe de cette époque, c'est que d'un côté, donc, les compagnons vont tout faire pour essayer d'échapper à toutes ces sentences, donc en continuant donc de mettre en place toute une terminologie, des signes, des codes, des mots de reconnaissance, en fait, etc., pour éviter de se faire apprendre par la police, Et d'un autre côté, c'est l'époque donc, où il est fait mention des premières grèves pour améliorer leurs conditions de travail. Voilà, donc c'est un peu le paradoxe de cette époque. D'un côté, ils essayent de ne pas trop se faire avoir, mais ils font aussi grève pour... Voilà. Alors, il faut noter que c'est vers cette fin du Moyen-Âge que le saint devoir de Dieu, donc c'est l'hérite, donc on l'a vu de Soubise, oui, et de Maître Jacques, se fait un petit appeler devoir. On enlèvera le terme saint devoir de Dieu, on gardera que le terme devoir. Et en fait, c'est l'appellation ancienne du compagnonnage. Le mot compagnonnage n'existe pas encore. Le mot compagnon existe, mais le compagnonnage n'est pas encore. Le terme compagnonnage n'est pas encore arrivé. Alors le devoir est en fait donc voilà l'ancienne dénomination du compagnonnage, il évoque ainsi toutes les obligations professionnelles et morales du compagnon, fortement influencées par l'Église catholique, et résume à lui seul le véritable code de conduite, tant au travail qu'en dehors. Les compagnons non du devoir, on a vu qu'ils étaient séparés, ont eux aussi plus ou moins les mêmes règles de conduite, mais ils ne veulent pas qu'elles soient influencées donc, par les préceptes religieux. Donc pendant la fin donc, du XVIe et le début du XVIIe, les sociétés compagnoniques continuent de se multiplier, mais si jusqu'à cette époque donc, le royaume était le seul adversaire des compagnons, le XVIIe siècle va être un tournant important dans l'histoire du compagnonnage, puisque l'Église, aussi l'Église de France, va elle aussi condamner les règles du devoir. Alors pourquoi ? Parce que la religion catholique donc, ne tolère plus que les sociétés ouvrières empruntent donc, des éléments de la symbolique chrétienne pour leurs rituels et cérémonies. Et un des éléments, entre autres, que ne tolère plus cette religion, c'est le baptême, puisque chaque nouveau compagnon reçoit donc, lors de son rituel donc, d'initiation un nouveau nom. Donc là, je fais juste une petite parenthèse, puisque donc, tout compagnon, quand il est reçu compagnon, se voit attribuer donc, un nouveau nom, en fait, et son nom de compagnon lors de sa réception, pour symboliser un peu le passage, on va dire, à une nouvelle vie. Donc il est généralement formé donc, du nom de sa région, où il est né, d'origine, avec le qualificatif donc, témoignant d'une qualité, donc d'une vertu, d'une compétence que le compagnon possède ou se doit de posséder. Alors il y a quelques exemples, on peut parler donc, de Nantais prêt à bien faire, donc Nantais puisqu'il est de Nantes est prêt à bien faire, puisque voilà, la vertu de Bordeaux, Vendôme la clé des cœurs, Gascon va de mon cœur, enfin vous avez plein de noms. Enfin, voilà. Et suivant les sociétés, donc ça peut être inversé, c'est-à-dire, là ça paraît, c'est des petits détails, mais voilà, au lieu de dire Nantais, enfin, ou je vais choisir un plus facile, Bordeaux la vertu, et bien, ça sera la vertu de Bordeaux. Voilà, ça dépend suivant parmi les sociétés qu'on a vues. Voilà. Mais il faut savoir aussi que pendant les périodes un peu troubles, ce nom de compagnon leur servait aussi d'échapper à la police, hein, puisque voilà, on les connaissait sur leur nom de compagnon, mais on ne le connaissait pas forcément sur leur nom. Voilà, l'identité, voilà. Alors en 1685, la révocation de l'Édit de Nantes va conduire à une nouvelle scission dans le compagnonnage, puisque en effet les adeptes donc, de la religion réformée donc, sont obligés de s'expatrier, et ils vont rejoindre et grossir les sociétés donc, non du devoir. Et c'est à cette époque que deux catégories de compagnons vont se démarquer encore plus nettement, donc d'un côté les compagnons du devoir, donc Rite, Jacques et Soubise, donc essentiellement de confession catholique, et de l'autre côté, donc, ceux déjà donc, qualifiés non du devoir, donc rite de Salomon, auxquels va se rajouter la très large majorité donc, voilà, des protestants, des compagnons protestants. Donc ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que certains métiers, à cette époque, vont se retrouver dans deux rites différents, puisque certains compagnons donc, vont rester fidèles donc, au devoir de Jacques ou Soubise, et d'autres vont rejoindre le rite de Salomon. Et plus tard, donc, ça va être la source un petit peu de tous les... Donc j'ai fait un petit tableau, enfin j'ai pas mis toutes les sociétés, etc. J'ai mis les rites donc, en haut. Et par exemple, les charpentiers donc, qui étaient des Soubise au départ, on l'a vu, qui étaient... une partie va partir, elle va devenir donc Salomon. C'est-à-dire qu'on va trouver deux sociétés de charpentiers avec deux rites différents. Les tailleurs de pierre, on a vu que Jacques donc, était tailleur de pierre. Et il y en a d'autres qui vont partir Salomon aussi. Les menuisiers, pareil. Serruriers, pareil. Et les couvreurs, eux, c'est plutôt Jacques et Soubise. Donc ça va faire une multitude de sociétés compagnoniques qui vont avoir des rites différents. Et on va voir que plus tard, ça va commencer à poser des problèmes, puisqu'il est... Voilà. Alors, là, j'ai mis que les métiers principaux, il y a la construction ou autre, mais là, pareil, pour vous donner une idée, à cette époque, il y avait des tourneurs, des vitriers, des forgerons, des maréchaux ferrants, des charrons, des tanneurs, des blanchers. Donc ça, c'est des tanneurs de petites peaux, des chaudronniers, des boulangers, des teinturiers, des bourreliers, des selliers, des couteliers, des vanniers, des teinturiers, des fondeurs, les fermentiers, c'est ceux qui mettaient les teintes donc, dans les casseroles, là, les cloutiers, les cordonniers, les tisseurs. Enfin voilà, il y a plein de métiers qui existent et qui vont se retrouver un peu confrontés aussi à cette double appartenance. Alors, les compagnons, pour se reconnaître, donc, il y avait des petites cérémonies donc, qui se faisaient quand ils se rencontraient, puisque à cette époque, on voyage à pied. Donc, ils posaient les cannes, on voit les cannes qui sont posées là sur le côté, et puis il y a des petites cérémonies pour se faire reconnaître, savoir de quelle société on est, enfin, etc., etc. Voilà. Et donc, pour se reconnaître, on avait donc, les compagnons ont une canne et des couleurs. Donc, les couleurs, suivant les sociétés, on les accrochait plus au chapeau. Certaines sociétés les accrochent encore au chapeau. Après, on les accroche à la boutonnière. Donc, chacun s'est démarqué un petit peu, suivant. Pour ne pas ressembler aux autres, surtout, en fait. Voilà. Et donc, la canne, c'est l'élément principal donc, du compagnon quand il voyage, puisqu'à cette époque-là, on voyage à pied. Donc, on a une canne qui sert aussi à se défendre. Elle ne sert pas qu'à se promener. Voilà. Les couleurs, bon, généralement, ils ne marchaient pas avec, mais quand ils traversaient les villes ou autres, ils les mettaient pour se faire aussi reconnaître. Et puis on voit qu'ils ont une gourde aussi à côté. Voilà comment les compagnons voyageaient à cette époque-là. Et donc je me suis amusé là aussi à faire la différence. Par exemple, les charpentiers, j'ai dit donc qu'ils étaient divisés maintenant en deux rites. Donc l'ancien rite donc, est à votre droite, sous Guise, donc, où on voit toujours les couleurs accrochées au chapeau par rapport à l'ancienne scène référence du père sous Guise, et là-bas plutôt le devoir de liberté, qui eux, donc, souvent par opposition, eh bien, accrochaient leur couleur à la boutonnière. Donc pareil pour les menuisiers. Donc là, vous avez le devoir donc, à droite de Maître Jacques, et là-bas aussi le devoir de liberté, donc Salomon, enfin, nom du devoir, pardon. J'ai avancé. Voilà, donc ça c'est les poumons des cannes, donc de vieilles cannes, puisqu'elles sont toutes marquées suivant les sociétés. Voilà, généralement il y a le nom de compagnon, il y a toute une symbolique au niveau de la canne. Et les poumons, vous voyez, enfin, qui sont bien ronds aussi, servaient aussi de se faire respecter sur les, sur les sentiers. Voilà, donc ça c'est des couleurs, des anciennes couleurs donc, qui ont été retrouvées, qui sont au musée du compagnonnage. Voilà, on voit toutes les inscriptions qu'il peut y avoir dessus, enfin, toutes les, suivant les sociétés auxquelles on appartient, et ça permet donc aux compagnons de se faire reconnaître. Voilà. Et donc là, quand ils partaient de ville en ville, là, je sais pas, c'est pas très net, mais enfin, les compagnons se réunissaient, et quand un compagnon allait changer de ville, on le mettait sur les chars, on appelle ça, donc il y avait tout un petit cérémonial qui servait donc à le faire partir, et pareil, donc, quand il arrivait dans une autre ville. Je sais pas si je veux... Voilà, donc, c'est notre gravure, pareil, qui date de ces époques-là, où on voit, donc, tous les rassemblements, etc. Voilà, donc, sinon, on le voit mieux. Je vous laisse regarder. Je laisse là. Alors, là on arrive au XVIIIe siècle, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle donc, que le terme compagnonnage va apparaître, et puisqu'avant on ne parlait que de devoir, le terme compagnonnage n'existait pas. À 1719 exactement. Donc à cette époque, le compagnonnage est une véritable institution, donc il y a les moyens de se faire respecter et de faire entendre ses revendications concernant l'amélioration des conditions de travail pour les ouvriers. Il est implanté donc, dans toutes les grandes villes et certains métiers donc, ont parfois le quasi-monopole des embauches. Et cela donc, va malheureusement créer des tensions donc, entre compagnonnage, surtout que les questions religieuses ne sont pas encore réglées. Et donc à cette période, le compagnonnage donc, présente deux fortes caractéristiques. Sa puissance donc en tant qu'organisation ouvrière, puisqu'il organise des grèves donc parfois très longues, contrôle les embauches dans certaines villes, interdit des interdictions, fait des interdictions de boutique, c'est-à-dire quand un patron voilà, paye pas bien ou autre, et, on interdit aux autres compagnons d'y aller. Il va même des fois à faire des interdits sur des villes entières, quand il y a des villes où certains métiers ça se passe pas bien ou autre, on n'en voit plus de compagnons. Voilà, et enfin voilà, donc une grande solidarité. Et dans le même temps, donc, la division est de plus en plus profonde donc, entre les différents rites, et donc les rixes, donc entre compagnons, de devoirs rivaux, sont de plus en plus nombreuses, et donc avec parfois là des victimes, hein, puisque, comme je vous l'expliquais, les cannes donc, ne servaient pas qu'à voyager, et certaines donc été équipées par la suite de couteaux, enfin d'armes tranchantes, et même les outils, des fois, servaient à autre chose qu'à travailler. Donc ainsi, donc, les auberges, les défilés, les conduites, hein, donc, c'est ce que, les conduites, c'est ça, donc, tout est prétexte pour chaque société donc, de se faire voir, mais aussi de s'affronter et de se rencontrer, enfin, et de rencontrer donc, une société rivale pour voilà, se mettre sur la figure, quoi. Donc après la Révolution, là donc on est donc au XVIIIe siècle, les compagnons non du devoir vont devenir les compagnons donc du devoir de liberté. Parce qu'en effet, donc ils se sont très impliqués donc, dans la Révolution, ils vont prendre de plus en plus d'importance et sont de plus en plus rejoints donc, par tous les compagnons qui ne se reconnaissent plus dans le très catholique devoir. Et à cette même époque, donc le tout nouveau code pénal donc, punit l'organisation des grèves par de l'emprisonnement. Ceci n'empêche pas donc, le compagnonnage de continuer à se renforcer en tant qu'organisation de protection et de revendication, et on y retrouve donc là les prémices et donc du syndicalisme. Au début du XIXe siècle, on estime à environ donc, 200 000 le nombre de compagnons en France. Donc la première moitié donc, du XIXe siècle. Et là donc, pour éviter donc, les fameuses batailles sanglantes et parfois donc, meurtrières, donc entre rites, les compagnons donc, vont s'entendre pour organiser donc, des concours de villes placés donc, sous l'autorité de personnes extérieures au compagnonnage. Donc. L'enjeu était que celui qui faisait le plus beau chef-d'œuvre gagnait la ville pour un nombre d'années données au détriment donc, de l'autre société. Pour cela, donc, on enfermait les meilleurs ouvriers de chaque société dans un local. Ils devaient exécuter donc, un sujet donné sans aide extérieure. Parfois même, ils devaient fabriquer ces outils qu'ils prenaient soin de détruire une fois le concours fini donc, pour ne pas donc, que l'on voit comment ils avaient procédé donc, pour travailler. Et évidemment, la société perdante devait quitter la ville pour le nombre d'années défini. Donc là, je vous ai mis une des plus célèbres, donc, on appelle ça la chèvre de Montpellier, puisqu'elle a servi donc, aux compagnons donc, maintenant du devoir de liberté, donc du rite de Salomon, de gagner la ville de Montpellier pour 100 ans. Et c'est-à-dire qu'ils avaient négocié, enfin 99 ans exactement, que les autres menuisiers ont quitté la ville pour s'en prendre. Bon, après, ça n'a pas duré, enfin voilà, il y a eu des chicaneries, mais enfin voilà. Là, c'est le serrure aussi qui a été faite. Là, c'est le contraire, c'est les compagnons du devoir, c'était pour la ville de Marseille, où là, pareil, c'est les compagnons du devoir qui ont gagné la ville, et donc les autres compagnons n'avaient plus accès à cette ville. Alors, tout ça pour dire aussi qu'il existe différents chefs-d'œuvre. Donc chez les compagnons, alors, le principal chef-d'œuvre et le plus important, donc, c'est celui de la réception, que l'on appelle, hein, puisqu'il valide l'état de compagnon. Chaque itinérant, pour devenir compagnon, donc, doit faire son chef-d'œuvre, comme on appelle. Donc, il est le reflet donc, de ses connaissances techniques acquises jusque-là, mais il témoigne aussi donc, des vertus et des qualités morales de son auteur, puisque rien ne lui est imposé. C'est chaque récipiendaire qui choisit librement la difficulté technique ainsi que l'esthétique de son œuvre. Donc il est soumis à une critique sévère et il faut qu'il ait une parfaite concordance donc, entre l'épure, donc je vais y venir, c'est cette fameuse science du trait que je parlais tout à l'heure, donc qui elle est conçue au départ, et quand l'objet est terminé, il faut évidemment qu'il corresponde parfaitement à l'épure. Et c'est ce qui démarque un peu le chef-d'œuvre hein, d'une œuvre d'art, qui, elle, donc, ne nécessite pas forcément hein, cette rigueur et cette constance dans le dessin. Donc ça, c'est le principal chef-d'œuvre. Après, on l'a vu, c'est des chefs-d'œuvre de concours. Donc ça, il faut savoir qu'il n'en existe plus maintenant, mais on ne se bat plus pour avoir les notoriétés sur une ville. Et il y a après des chefs-d'œuvre qu'on appelle d'exposition. Donc généralement, c'est des chefs-d'œuvre collectifs, c'est un peu ce que vous avez là, qui sont faits à des occasions bien particulières, comme là, c'était l'exposition universelle qu'il y avait en 1889. Voilà, il y a des occasions où on fait donc des chefs-d'œuvre collectifs, des grands chefs-d'œuvre. Voilà, on promène en ville, donc avec pareil les couleurs, les bannières, etc. Alors généralement c'est fait pour les fêtes patronales, puisque chaque métier a son patron. Donc pour les charpentiers, la Saint-Joseph. Et voilà, chaque société. Voilà, donc ça aussi c'est vrai, c'est le grand chef-d'œuvre. Donc ça fait 3,50 mètres d'euros à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, le premier. Voilà, donc ça c'est au musée du compagnonnage aussi, qui se trouve à Tours, si un jour vous allez par là-bas. Et donc là c'est pour parler donc de la science du trait, qui est propre donc au compagnonnage. En fait c'est un tracé en projection, c'est du tracé dans l'espace, ce qu'on appelle la recherche de vraie grandeur. Alors aujourd'hui on appelle plutôt ça de la géométrie descriptive. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les moines cisterciens qui ont ramené ça, et bien, voilà, on ne sait pas trop d'où. Certains disent qu'ils l'ont ramené d'Orient, enfin voilà. Et qui ont donc enseigné cet art aux compagnons. Donc, du Moyen-Âge, et on sait que ça a évolué jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Voilà, donc ça, c'est un tréteau. Donc, à côté, je vous ai mis les pures, en fait. Donc c'est pour arriver à comprendre où toutes les pièces de bois que vous voyez là, de ce côté-là, elles sont toutes en fait sur le dessin que vous avez là-bas. Parce qu'il n'est pas question de s'amuser à recouper petit à petit pour essayer d'ajuster. On coupe directement, voilà. Et là, ça en est une autre où là, le charpentier s'est amusé à faire des pénétrations, des trucs tout en biais. Et vous avez le dessin à côté, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'art du trait. Voilà. Donc, si vous voulez jouer votre compagnon, il faut passer par là. Alors là, on est au 19e siècle, à peu près la moitié du 19e siècle. Je vous l'ai dit, il y a à peu près 200 000 compagnons. Et donc, face à toutes les divisions que je vous ai parlé, donc, quelques voix se font entendre pour tenter d'unifier le compagnonnage. Donc le plus célèbre d'entre eux, c'est Agricole Perdiguier, dit Avignolet la Vertu, donc son nom de compagnon. Donc il est compagnon menuisier du devoir de liberté, donc rite Salomon. Et donc profondément choqué par les rivalités incessantes entre les rites, donc parfois meurtrières, il n'aura cesse d'essayer de réconcilier les compagnons, donc des trois rites. Pour cela, il commença par écrire des livres dans lesquels il dénonce la stupidité des querelles, qui ne font qu'affaiblir les devoirs. Cela fut diversement apprécié par les compagnons qui voyaient pour la première fois divulguer au grand public le contenu des légendes et des cérémonies, donc internes. Malgré de nombreuses tentatives pour réformer le compagnonnage, il mourut donc en 1875 sans que son œuvre ambitieuse et généreuse aboutisse, mais voilà, il avait semé quelques graines. Et donc en 1889, sous l'impulsion donc de Lucien Blanc, qui lui était un compagnon bourrelier harnacheur du devoir, donc Maître Jacques, va se créer donc l'union compagnonique des compagnons du Tour de France, donc des devoirs unis. Donc ce mouvement donc, voulait s'inscrire dans la lignée de l'œuvre de réconciliation donc, entreprise par Perdiguier. Donc il a voulu réunir, les trois rites, donc Jacques, Salomon et Soubise. Mais donc jugé trop innovant pour les compagnons restés fidèles donc, à une certaine idée traditionnelle du compagnonnage, il ne regroupa que quelques sociétés compagnoniques. Voilà. Les trois rites sont quand même représentés au niveau de l'Union, mais ce sont donc principalement des métiers de bouche, donc des cuisiniers, des boulangers, etc., même si maintenant il y a tous les métiers, même des métiers donc, de la construction, qui ont rallié les devoirs unis. Mais bon, donc d'une manière générale, les métiers de la tradition, donc de la construction, donc restèrent fidèles à leur devoir en reprochant donc à l'union compagnonique la fusion des trois rites en un seul rite, et ainsi de n'avoir qu'une initiation unique pour tous les métiers. Pour eux, donc, ce mélange des rites n'était pas traditionnel. Donc c'est pour ça que la grande majorité des sociétés compagnoniques n'ont pas voulu adhérer à l'union compagnonique, puisque eux n'ont maintenant, à l'union compagnonique, parce que ça existe toujours, l'union compagnonique, ils n'ont qu'un rite qui englobe en fait les trois. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le compagnonnage va perdre la quasi-totalité de ses repères ancestraux sous l'effet conjugué donc, de la révolution industrielle, qui met en place des procédés de fabrication moins dépendants donc, des tours de main et des secrets des métiers. Et à partir de 1884, donc, les syndicats montent rapidement en puissance dans ce monde ouvrier qui s'industrialise. Et ils vont tourner donc, en dérision les pratiques ancestrales du compagnonnage. Donc là, le compagnonnage est en déclin, puisque l'industrialisation va faire disparaître pas mal de métiers et donc de sociétés compagnoniques. Et donc paradoxalement, donc, si la révolution industrielle et la fin d'électricité entraînent un déclin incontestable de l'institution compagnonique, il convient donc de nuancer le tableau, car certains corps de métiers vont relever le défi de la modernité. Et le plus bel exemple donc, est celui des compagnons charpentiers, parce que nombreux peut-être ne savent pas que la tour Eiffel a été construite grâce aux compagnons donc, lors de l'exposition universelle de 1889. Donc c'est une quarantaine de compagnons charpentiers donc, qui étaient censés travailler le bois. Donc des deux rites, Salomon et Soubise, qui ont élevé donc, la tour Eiffel, puisque donc à ses débuts, donc, vous le savez peut-être, c'était très controversé, le projet de la tour Eiffel, et il se trouvait donc face à des défis techniques de conception et de levage jamais réalisés jusque-là. Et donc c'est sous l'autorité donc, du chef levageur Eugène Millon, donc dit Guépin, le soutien de Salomon, donc est un compagnon charpentier du devoir de liberté. Donc des compagnons charpentiers des deux rites acceptèrent de relever le défi lancé donc, par Eiffel à tous ses détracteurs. Et de janvier donc, 1887 à mars 1889, le compagnonnage de la charpenterie allait ériger l'un des monuments les plus visités au monde. Et cela montra aussi à tous les compagnons donc, le chemin désormais à suivre, qui était de tradition et de modernité. Et donc si vous visitez la tour Eiffel, donc, au lieu de regarder, quand vous êtes en haut, au lieu de regarder le paysage, vous regardez aussi à l'intérieur, vous avez une plaque donc, qui fait référence donc, à Eugène Millon. Et aux compagnons donc, qui ont servi à lever et à construire la tour Eiffel. Voilà. Donc, mais la Première Guerre mondiale arrive, et les sociétés compagnoniques donc, tentent de s'adapter à la révolution industrielle, mais les plus jeunes d'entre eux, malheureusement, donc, vont partir sur le front, et pour la plupart d'entre eux aussi, ils ne reviendront pas. Donc ceci va aussi affaiblir les sociétés compagnoniques qui n'avaient pas besoin de ça. Entre les deux guerres, donc, il devient nécessaire de réagir, et des discussions donc, de rapprochement voient le jour. Alors l'idée de fédérer le compagnonnage se fait sentir, mais les vieux devoirs donc, se voient mal côtoyer toujours l'union compagnonique, qui était trop novatrice donc, à leurs yeux. Et le temps donc, que prennent toutes ces discussions, et bien, la Seconde Guerre mondiale arrive, et le compagnonnage, donc, qui était déjà en situation très précaire, se voit confronté donc, à un nouveau problème, qui est donc le régime de Vichy, qui, avec sa loi donc, du 13 août 1940, donc, relative aux sociétés secrètes, eh bien, va mettre le compagnonnage, donc, s'apprête à interdire le compagnonnage. Et donc, un compagnon tailleur de pierre donc, du devoir, donc, Maître Jacques, qui s'appelle Jean Bernard, donc dit la fidélité d'Argenteuil, donc grâce aux relations qu'avait son père, obtient donc une audience auprès du maréchal Pétain le 8 octobre 1940 pour plaider donc la cause du compagnonnage. Il est autorisé donc à entreprendre une action visant à rassembler les divers compagnonnages sous la forme donc d'une association. Donc des réunions officielles et quelquefois donc clandestines vont avoir lieu dans plusieurs grandes villes de France, donc de la France occupée, mais aussi de la France non occupée. Alors il va de soi donc, que la reconnaissance du compagnonnage par le gouvernement de Vichy ne se faisait pas sans compensation, que quelques sociétés compagnoniques n'étaient pas prêtes à satisfaire. Donc l'Union compagnonique et toutes les sociétés du devoir de liberté refusèrent catégoriquement, préférant rester dans la clandestinité. Les autres devoirs, donc Jacques et Soubise, continuèrent de discuter, mais les Soubise donc, se retirèrent donc, avant le 1er mai donc, 1941, où devant donc, 200 compagnons, le chef de l'État français remet à Jean Bernard donc, la charte provisoire du compagnonnage. Donc inutile de préciser que cette période fut compliquée pour toutes les sociétés compagnoniques, et quand le 8 juillet 1941, donc, l'association ouvrière des compagnons du devoir est officiellement créée, le compagnonnage n'est pas moins divisé car les seules sociétés compagnoniques à se rallier à ce nouveau mouvement furent les sociétés donc, du devoir de Maître Jacques, toutes les autres sociétés ayant préféré se retirer. Alors j'ai fait un petit... c'est juste pour vous faire voir un peu après toutes les guerres, enfin l'industrialisation, etc. En compagnon donc, du devoir de Maître Jacques, il ne restait que ces quelques sociétés qui ont créé donc l'association ouvrière donc des compagnons du devoir. Voilà, donc les menuisiers, on les a vus qui existaient, enfin, ça fait partie des sociétés, les serruriers, donc les tonneliers, les charrons, donc les boulangers. Voilà. Et donc il y a juste un petit bémol à mettre au niveau des compagnons forgerons, maréchaux et mécaniciens, puisque quelques maréchaux refusèrent donc d'intégrer l'association ouvrière des compagnons du devoir. Et ils restèrent donc à l'écart de cette association. Alors, même si elle a été créée donc, dans une période trouble de la République française, après la guerre, donc, le nouveau gouvernement de la République soutient l'action de l'association ouvrière des compagnons du devoir, considérant comme acquis sa création, et va la reconnaître d'utilité publique. Et donc, dans une période de reconstruction, évidemment, tout ça... les a fait grossir et prospérer. Alors cela obligea aussi les autres sociétés compagnoniques à réagir si elles ne voulaient pas disparaître. Et donc en 1945, les discussions reprirent entre les sociétés qui n'avaient pas voulu intégrer ni l'Union compagnonique, ni donc l'Association ouvrière des compagnons du devoir. Et donc en 1952, va se créer ce qu'on s'appelle donc la Fédération compagnonique donc des compagnons du Tour de France. Et donc certaines sociétés en profitèrent donc pour fusionner quand elles étaient du même devoir. Enfin, voilà, donc les compagnons charpentiers, donc, qui étaient de rite Soubise et rite Salomon, vont devenir les compagnons des devoirs du Tour de France, puisqu'ils ont fusionné les deux devoirs. Les maçons tailleurs de pierre, pareil, vont devenir des devoirs du Tour de France. Les plombiers couvreurs, bondriers, donc eux sont restés Soubise. Les menuisiers serruriers, donc du devoir de liberté, et les compagnons maréchaux ferrants du devoir, donc ceux qui n'avaient pas voulu, qui s'étaient séparés donc, de leur société, qui avaient rejoint donc, l'association ouvrière, les compagnons du devoir. Donc voilà, là vous avez les 5 sociétés qui ont créé la fédération compagnonique donc, des compagnons du Tour de France. Alors, le paysage actuel, qui est toujours d'actualité, hein, se compose, donc on l'a vu, de l'Union compagnonique donc des devoirs unis, donc créée en 1889, l'Association ouvrière des compagnons donc, du devoir, créée donc, en 1941, et la Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France, créée en 1952. Alors, mais depuis 1952, parce que le compagnonnage est vivant, il bouge, il y a eu quelques petits changements donc, au sein de ces mouvements, puisque la société donc, des peintres vitriers du devoir, donc, qui était déjà, ont rejoint la Fédération compagnonique, ainsi que les boulangers pâtissiers du devoir, qui eux étaient aussi à la création de l'association ouvrière des devoirs, ont quitté l'association ouvrière des compagnons du devoir pour rejoindre la Fédération compagnonique des devoirs. Ce qui fait qu'à la Fédération compagnonique, maintenant, il y a 7 sociétés traditionnelle qui compose la Fédération compagnonique. Voilà, et donc là je vous ai mis quelques photos donc, actuelles. Donc ça c'est l'union compagnonnique, donc les devoirs unis. Donc ils ont tous les mêmes couleurs, on va dire, puisque c'est eux qui ont refondu tous les rites en un seul rite. Là, c'est l'association ouvrière dans des compagnons du devoir. Alors eux, ils ont tout refondu, puisque leurs couleurs et tout ça, vous voyez, n'ont plus trop rien à voir avec ce qui se faisait avant. Mais enfin, voilà, c'est la... C'est... Voilà. Et là, vous avez donc... ça, c'est les charpentiers au niveau de la fédération compagnonique. Donc eux, ils ont différentes couleurs suivant le grade, enfin, le degré qu'ils ont au sein de la société. Et aussi les rubans bleus, donc c'est ce qu'on appelle les aspirants. Après vous avez les compagnons reçus en vert et les compagnons finis en rouge. Et là vous avez après ça c'est les compagnons menuisiers donc et serruriers du devoir de liberté. Voilà. Donc toutes les photos qu'on voit c'est lors des fêtes patronales. Donc pour les menuisiers c'est la Sainte-Anne, voilà, qui s'est fait petite réception sur la place du Capitole. Alors il va sans dire que les relations donc, entre ces trois mouvements n'a pas toujours été très facile, mais la démarche première donc, de l'amélioration de l'individu par le travail est toujours restée commune à ces trois mouvements. C'est-à-dire que la première chose qu'on avait vue au départ est restée la même pour ça. Et donc ça a donné donc, lieu à une reconnaissance donc, par l'UNESCO en 2010, pardon, qui a inscrit le compagnonnage donc, comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc, qui repose sur donc, les valeurs donc, du voyage, qui permet de se construire en allant d'expérience en expérience en France et dans le monde, et la transmission qui permet à celui qui a reçu de redonner ce qui lui a été prêté, non seulement dans son métier, mais aussi dans sa manière d'être, basée sur des valeurs universelles. Donc ça, c'est les définitions de l'UNESCO, qui sont, vous le voyez. Et donc ce document est signé donc, par les trois représentants, et donc les compagnons du devoir, les compagnons du Tour de France et l'Union compagnonique. Et puisque la reconnaissance par l'UNESCO englobe le compagnonnage voilà, dans sa globalité. Donc pour moi, ça, avec ces valeurs-là, ça me permet de boucler la boucle, c'est parce que ça, on rejoint la définition que j'avais donnée au départ, voilà. Et de terminer, parce que je crois que voilà, et de passer aux questions si vous en avez, voilà. Ça marche.
Tu as parlé de compagnons finis.
Oui, voilà. Avec alors, ça, c'est couleurs, les voilà, ça c'est les grades.
On est à vie ou pas?
Quand on est fini, c'est pas, ça veut dire, c'est pas qu'on quand on est fini, ça veut dire qu'on a accompli. Voilà. Donc il y a trois grades. Alors au début j'ai parlé d'apprenti, compagnon et maître, mais en fait dans les sociétés compagnoniques, et ça change aussi suivant les sociétés, c'est pas tout à fait pareil. Mais il faut savoir que il y a un premier grade, on va dire, ou degré. Qui est donc, chez charpentier, c'est un aspirant, chez les maçons, c'est des jeunes hommes, chez les menuisiers, c'est des affiliés, enfin voilà, mais on n'est pas encore compagnon. On fait partie de la société des compagnons, mais on n'est pas compagnon. Pour être compagnon, il faut avoir fait son chef d'œuvre. Donc, l'état de, on appelle ça d'affilié, enfin autre, va durer 2 ans, 3 ans, enfin ça dépend de la personne, quand il se sentira capable de faire son chef d'œuvre. Et après, il deviendra compagnon. Voilà. Et après, au bout de... Enfin, voilà, quand généralement il devient sédentaire, enfin, ou autre, suivant comment il s'est impliqué dans sa société ou autre, il deviendra donc compagnon fini. Là, généralement, c'est au bout de plusieurs années. Et avant cette étape-là, il y a ce qu'on appelle le jeûne. Donc, c'est-à-dire que lui, il va partir sur le Tour de France, mais il ne fait pas partie des sociétés compagnoniques. Il est accepté par eux, il va commencer son Tour de France, généralement là ça dure 2 ans, pour voir s'il peut s'adapter à la vie compagnonique ou autre, et si oui, il deviendra donc aspirant, jeune homme, affilié ou autre.
Après le passeport.
Voilà, ça c'est avant. Avant, il ne fait pas partie de la société compagnonnage. Il est au sein du compagnonnage, mais il n'en fait pas partie. Et pour passer donc aspirant ou autre, généralement, on fait aussi ce qu'on appelle une maquette, c'est un petit chef-d'œuvre. En fait. Voilà. C'est une petite.
Combien y a-t-il de
compagnons
dans actuellement ?
Alors, à peu près. Donc, j'ai pas les trucs récents, mais dans les années 2000, il faut savoir que les compagnons du devoir est à peu près 5000. La fédération, 3500 à peu près, et 1500 l'union compagnonique, les compagnons du devoir unis. Donc on n'arrive pas tout à fait à 10 000 compagnons, je pense, par rapport aux 200 000 du début du 19e siècle. Enfin, voilà. C'est pas...
Tout à l'heure, vous avez parlé des fraternelles, tout à fait au début.
Oui, des fraternités. Oui.
Est-ce qu'elle peut pas dire compagnonnage ? Expliquez-nous.
Alors, j'ai parlé de fraternité, mais pas de fraternelle. Elle est. Le compagnonnage se veut fraternel, donc il y a de l'entraide, etc., mais ça se fait entre nous, enfin, entre compagnons, enfin, voilà, dans la vie des sièges ou autre. C'est comme ça que, donc, comme je le disais au début, il y a une solidarité, bon, qu'elle soit humaine, on va dire, mais aussi matérielle, enfin, etc., quand le besoin le demande.
Au début du siècle dernier, j'avais un oncle qui avait fait compagnonnage qui était boulanger, ouais.
Je pense que c'est plutôt maçonnique, ouais, les fraternels. Ouais.
Entre les différentes castes, je veux dire, entre les tailleurs de pierre et les menuisiers, est-ce que les apprentis avaient un salaire, touchaient un salaire déjà
Alors, quand on part sur le Tour de France, on part comme ouvrier. Donc on est chez un patron et le patron nous paye. Voilà. Et même si on est ce qu'on appelle un jeune, donc celui qui démarre sur le Tour de France. Voilà. Et après, évidemment, comme je le disais, ça existe encore. Hein, si les patrons ne payent pas trop, enfin, ou autre, on interdit ces entreprises-là, enfin, aux jeunes d'y aller, enfin, ou autre. C'est encore d'actualité. Bon. Même s'il y a des problèmes d'embauche.
Maison des compagnons à Toulouse.
Pardon, oui. La maison des compagnons.
Vous pouvez rappeler l'adresse, s'il vous plaît.
Ah non, mais il y a Toulouse,
il y a une journée portes ouvertes.
Oui, ça c'est la fédération compagnonique. Donc c'est samedi, je crois, c'est vendredi samedi. Voilà. Pardon ? L'association aussi, d'accord. Et donc. Si vous voulez visiter un musée, il y en a un rue Tripière, donc il y a la rue piétonne parallèle à la rue Saint-Rome. Voilà. Donc là, vous avez un petit musée où là, vous avez tous les chefs-d'œuvre, enfin tous, pas mal de chefs-d'œuvre. C'est ouvert tous les mercredis. Et donc là, vous avez autrement les grandes maisons. Il y en a une à Plaisance du Touche, donc qui est la Fédération compagnonique. Et l'autre qui est à Colomiers, qui est les compagnons du devoir. Voilà. Et l'union compagnonique dans la région n'est représentée qu'à Montauban. Voilà.
Est-ce que les femmes sont autorisées, les compagnons ?
Non,
elles sont douées de leur main.
Non, alors il y a. Alors, la seule femme donc acceptée un compagnonnage, c'est la mère. Il faut savoir là aussi que la mère n'est pas dans toutes les sociétés compagnoniques. Il y a des sociétés compagnoniques qui sont toutes celles qui sont retirées du carcan religieux, enfin, etc. Enfin, voilà, le pas de référence à la mère, l'initiatrice, etc. Ça, c'est une petite parenthèse. Et alors, les sociétés qui ont refondu un petit peu leur rite, enfin, etc., acceptent les femmes, donc entre autres les compagnons du devoir, association ouvrière. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué, enfin, voilà, puisqu'il y a des problèmes, alors on va dire, bon, outre les problèmes matériels, puisqu'il faut pouvoir accepter des femmes, parce que si vous allez à Toulouse, il y a 50-60 jeunes, même les compagnons du devoir, je crois qu'ils sont une centaine. Donc vous mettez une fille au milieu ou deux, enfin voilà. Donc il faut que les locaux soit...
Qui a le bâton.
Donc eux, ils arrivent à s'en sortir parce que bon, ils ont des structures plus adaptées. La fédération compagnie, c'est un peu plus compliqué. Plus qu'en plus, donc les sociétés compagnoniques sont restées sur les rites ancestraux et certaines sociétés sont obligées de modifier leur rite enfin, ou autre s'ils veulent accepter des femmes. Parce que c'est, bon, c'est très...
C'est viril.
C'est viril, un peu physique. Voilà. Et donc, voilà, donc ça pose problème, mais c'est en discussion. De toute façon, il y en aura, puisque c'est la suite logique, mais voilà, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a toujours un volet vie communautaire dans les trois...
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, plus ou moins important suivant les sociétés auxquelles on appartient, parce que les plus développés, donc c'est la fédération compagnonique avec l'association ouvrière. Donc là, vous pouvez vous retrouver à 50, 60, 70 jeunes à vivre ensemble, hein, dans la même maison. Quoi. Donc,
en dehors du Tour de France.
Ah non, là c'est le Tour de France. Hein.
D'accord.
Oui, dans chaque...
Donc, ils sont accueillis dans les villes.
Dans chaque grande ville, il y a des maisons, enfin, des sièges, qu'on appelle, qui vous reçoivent. Et donc, vous êtes... Les plus petits, vous pouvez être 4 ou 5 dans les petites campagnes, comme on appelle, mais les grandes villes comme Toulouse, oui, vous êtes à 50. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui sont...
Alors oui, il y a des nouveaux métiers qui font leur apparition, puis ils le font de toute façon, parce qu'autrement, à un moment ou à un autre. Bon, les métiers traditionnels de la construction, c'est la base du compagnonnage, et eux sont obligés de s'adapter, d'évoluer. On a vu les charpentiers qui ont dû passer du bois, des fois au fer, enfin, ou autre. Les serruriers, c'est pareil, ils sont obligés de s'adapter, autrement ça ne sort pas. Les tailleurs de pierre ont de gros problèmes parce que, voilà, tailler la pierre, donc ils se sont regroupés avec les maçons. Mais la brique du béton, on fait ça pour essayer de survivre, parce qu'autrement ils sont voués aussi à la disparition. Les maréchaux ferrants qu'on a vus, enfin voilà. Les chaudronniers sont, eux sont compagnons du devoir. Et eux, voilà, ouais, donc se sont regroupés avec les maréchaux ferrants et tout ça, pour essayer d'exister, quoi, de survivre.
Vous avez dû faire une petite merveille quand vous êtes arrivé au bout de votre tour de France. Qu'est-ce que vous avez fait comme choisi comme thème?
Oui, alors bon, c'est pas. Donc, je suis pas le seul compagnon dans la pièce, à mettre d'autres mal à l'aise aussi. Mais non, chacun. Enfin, moi je suis marqueteur aussi, donc j'ai fait un meuble en marqueterie. Voilà, tout à fait. Il faut aller à Avignon si vous voulez le voir. Voilà.
Oui, il y a donc combien de métiers concernés?
Ah, ben là, vous les avez tous vus, la liste qu'on a vue, voilà.
Elle est complète.
Elle est quasiment complète, sauf à l'Union compagnonique, parce que l'Union compagnonique, donc on l'a vu, on regroupait tous les rites, etc. Donc on n'a aucun devoir, donc un devoir uni.
Il
n'y
a pas plus de métiers que...
Eux, si, ils sont beaucoup plus ouverts, parce que je sais qu'à une époque, ils avaient reçu un prothésiste dentaire, par exemple, des horlogers, enfin, des... Voilà, ils sont beaucoup plus ouverts, parce que leur rite et tout ça leur permet aussi, quoi, leur façon d'être structuré. Nous, c'est... Enfin, je ne peux pas encore... On peut encore demander où j'étais.
On a des indices.
Vous avez parlé de fondeur, par exemple.
Oui, fondeur,
c'est vrai. Est-ce qu'il y avait des modeleurs? Je pose la question.
Bon, sûrement. Après, il y a plein de métiers qui ont disparu.
Au contraire, les chaudronniers, les modeleurs, dans l'aéronautique.
Ah, il y en a
les carrossiers, les modeleurs. Enfin, je sais qu'ils sont toujours occupés.
Je suis modeleur, je suis passé toute ma vie en modelage. Je n'ai jamais rencontré de compagnon qui avait fait le tour de France. Mais vous dites que des fondeurs existaient, donc des modeleurs devaient exister.
Mais après, quand le problème, c'est quand avec l'industrialisation, donc un peu de tout, il y a des... Alors là, le métier existait toujours, mais les sociétés compagnoniques, elles se sont retrouvées à disparaître. Quoi.
Oui, au style, dans l'automobile, il y a beaucoup de modeleurs. Dans les grandes fonderies, il y a toujours des modeleurs.
Oui.
Comment vous expliquez que cette tradition a resté presque plutôt en France, un peu en Allemagne? Et puis, quel est vraiment encore l'intérêt pour la formation d'un métier, d'apprentissage d'un métier d'aujourd'hui?
Alors, La deuxième partie de la réponse, c'est que au-delà du métier, je ne sais pas si j'avais bien fait transpirer, mais il n'y a pas que le métier qui compte aussi. Il y a le côté humain, etc. Donc, sauf pour les femmes, voilà. Si on veut aller un peu au-delà de son métier, ça c'est l'utilité du compagnonnage, quoi. Mais après, pourquoi ça existe plutôt en France et que ça a disparu? Parce qu'il y avait des compagnonnages, on sait que ça, il y en a eu un peu en Espagne, en Italie, enfin, etc. Mais ça a périclité, ça ne dure pas. Il y a le seul donc, qui a résisté, c'est en Allemagne. Il faut savoir quand même que les pays francophones, les Suisses ou les Belges, viennent au compagnonnage français pour faire leur tour de France, en fait. Mais après, non, voilà, il y a eu des tentatives, puisqu'à un moment aussi, certains sont partis aux États-Unis pour essayer de faire une forme de compagnonnage là-bas, mais qui n'a pas résisté, qui a fini en forme de syndicat, et puis voilà, le compagnonnage traditionnel, comme on l'entend ici, n'a pas persisté, quoi. Ça a périclité.
À part l'entraide et le réseau des compagnons, est-ce qu'il y a une influence sur politique ou...
Non. Donc dans le compagnonnage, dans les règles que nous avons au sein de nos sièges, ni de politique, ni religion. C'est interdit de parler... Même la religion, même si certains noms de morts sont très, très religieux, mais voilà. Parce qu'il faut savoir que les Jacques, donc, il fallait être obligatoirement catholique, et jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, pour pouvoir y adhérer. Hein. Voilà.
Les patrons chez lesquels vous travaillez sont des patrons qui accueillent des compagnons régulièrement. C'est des pistes qu'on donne avant.
Oui, mais c'est un petit réseau qui se monte, puisqu'on connaît plus ou moins tout le monde, chaque compagnon sédentaire, donc une fois qu'il s'est sédentarisé, connaît plus ou moins toutes les entreprises. Donc il y a dans ce milieu-là aussi des entreprises de compagnons, hein, puisqu'il y a des compagnons qui ont leur entreprise, donc ça fait déjà un petit réseau. Et puis voilà, après, on nous appelle aussi quand il y a besoin. Hein. Voilà. Nous, le gros avantage, c'est on voyage, donc si on a besoin de nous 3 mois, on y va, quoi. Et si on n'a plus besoin de nous, on va ailleurs, quoi. Enfin, quand on est itinérant, hein, il y a des fois, on reste 3 mois chez quelqu'un, et puis on part ailleurs. Normalement, on reste 1 an dans chaque ville, hein, je ne l'ai pas dit, mais à notre époque. Et on arrive généralement en septembre, et on repart au mois de juillet, quoi.
Et donc, pendant combien de temps?
Alors... L'étape de jeûne que je parlais tout à l'heure donc, dure à peu près 2 ans. Donc, ça, c'est la moyenne, on va dire. Après, donc, vous êtes reçu aspirant, jeune ou autre, ça va durer encore 2 ans avant d'être reçu compagnon. Et donc, après, quand vous êtes.
Ça, c'est les minimums.
C'est la petite moyenne. Voilà. Et donc, si vous voulez être compagnon, vous comptez au minimum 4 ans. Donc, on va dire que c'est plutôt 5 à faire votre tour de France. Quoi.
Comment vous voyez l'avenir pour les compagnons?
Mais il va falloir qu'ils se bougent un petit peu. Hein,
parce qu'avec les nouveaux systèmes de construction,
dans le compagnonnage, actuellement, il y a encore toujours les deux tendances. Une branche un peu traditionnelle, que je veux dire, pour ne pas dire traditionnaliste, il faudrait travailler à la varlope, les anciens petits. Et puis il y en a d'autres qui avancent, puisque le compagnonnage permet aussi. Il y en a certaines, grâce au Tour de France, ils sont devenus ingénieurs, architectes, on trouve de tout chez les compagnons, qui eux, j'ose dire, tirent le compagnonnage vers l'eau.
On peut les estimer à combien aujourd'hui en France?
J'ai dit à peu près.
100 000 à peu près?
Non, 10 000, à peine 10 000, oui. Dans toutes les sociétés. Hein. Oui, c'est beaucoup moins que ça. Ouais. En sachant que 50%, les dernières statistiques, en gros, c'est 50% donc des compagnons créent leur entreprise, enfin voilà, se mettent à leur compte. Et puis les autres 50% vont se diviser donc entre ceux qui restent ouvriers hautement qualifiés, enfin, etc. Quelques enseignants, donc quelques-uns qui deviennent ingénieurs, architectes, décorateurs d'intérieur, enfin voilà, ou travaillent dans des bureaux d'études, enfin voilà.
Et pour commencer un tour, il faut avoir un âge minimum, et je crois qu'il faut avoir un maximum qu'on ne peut pas dépasser.
Alors,
c'est le problème aussi.
Si on est trop vieux, on...
Et c'est dommage, parce qu'il y a des gens qui se trouvent...
Alors, mais après, il faut pouvoir s'adapter. Enfin, maintenant, voilà, dépasser la trentaine, partir avec des jeunes de 18 ans, ça ne le fait pas.
Non, on m'a dit que je ne pouvais pas commencer... Enfin, c'était bien, bien plus jeune.
Ah non, il y en a qui partent, qui ont passé la... Parce que maintenant, en plus, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent le métier sur le tard. Ils vont faire leur bac, ils vont faire même la licence ou autre, et puis on en voit certains qui repartent faire un CAP charpentier ou autre, enfin voilà. Et donc on en reçoit qui ont passé la vingtaine, hein, 22, 23 ans, enfin voilà. Mais bon, ça commence à être déjà...
À 23 ans, on commence à tiquer.
Ah non, nous on ne tique pas. Mais eux, c'est quand vous êtes avec des gamins de 18 ans, que vous commencez à avoir 25 ans, moi j'en ai connu certains qui avaient une femme et des enfants, parce que ça permet, on peut quand même tourner, bon voilà, c'est pas la même vie, quoi. Voilà.
Bien, on va prendre, si vous voulez bien, encore deux interventions. Et après, vous aurez l'occasion de discuter entre vous et de parler avec le conférencier. Devant l'auberge espagnole qui vous attend à écouter. Merci beaucoup.
Quel est votre nom? Est-ce qu'il est possible de savoir votre nom de compagnon?
Oui, moi, donc languedocien, puisque je suis d'ici, et donc l'ami des arts. Voilà, par rapport à...
Pourquoi pas métier de bouche, il n'y a que le boulanger.
Non, il y a les boulangers pâtissiers, après il y a des cuisiniers, il y a des... il y en a plusieurs, voilà. Voilà. Et pour vous, pour compléter, donc, puisqu'on parlait de moi, pour vous le dire, donc, moi je fais partie de la société donc, des compagnons du devoir de liberté. Voilà.
Si vous voulez bien nous aider... Ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, regrouper les chaises par 5.
Voilà, et je vous remercie donc pour votre attention.
C'est pareil.